Tamani.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Ravi de vous retrouver pour cette édition de la matinale. Bonjour à tous et bienvenue. Au sommaire, le retrait de Barkhane annoncé vient de démarrer. Un convoi logistique composé des militaires français a quitté ce mardi Kidal. Au même moment, le marshal des logis de l'opération à Tombouctou est décédé accidentellement. Opération de révision des listes électorales. L'affluence n'est pas au rendez-vous dans certaines communes de Bamako. Les présidents de la commission administrative dénoncent la non-implication des autorités pour le bon déroulement du processus. La plateforme Calamblon a été lancée hier à Bamako. Selon les organisateurs, cette plateforme vise à former les journalistes, activistes, blogueurs et les étudiants. Plus de détails dans ce journal présenté par Moumine Sendebou, Moundjiré assure la mise en onde. L'annonce de la fermeture des bases militaires françaises au nord du Mali prend forme dans un communiqué de Barkhane. Un convoi logistique composé des militaires français a quitté Kidal ce mardi. Cependant, un détachement de la force reste sur place, précise le document. Au même moment, un mécanicien de l'opération Barkhane à Tombouctou est décédé accidentellement pendant qu'il effectuait une opération de maintenance d'un camion. Les détails avec Akia Touré.
Le maréchal des logis, Adrien Culin, était mécanicien au sein du groupement tactique de la force Barkhane. Il est mort accidentellement ce mardi 12 octobre à Tombouctou, grièvement blessé quand il effectuait une opération de maintenance sur un camion. Malgré sa prise en charge sur place, il n'a pas pu être réanimé. Cet incident dramatique intervient pendant que les derniers convois de la force française quittaient Kidal le même jour. Le camp militaire français où était stationné une centaine d'hommes sera définitivement transféré à la force des Nations Unies dans une dizaine de jours. Dans un communiqué, le chef d'état-major du Barkhane assure que cette première étape se déroule dans de très bonnes conditions de dialogue et de coordination avec la MINUSMA et l'armée malienne. Néanmoins, un détachement du Barkhane reste sur place. Il sera notamment chargé de conduire les dernières formalités administratives et logistiques. Cette opération intervient dans le cadre de l'adaptation du dispositif militaire français dans la bande sahélo-saharienne décidée en juillet 2021 par le président français Emmanuel Macron. Paris a décidé de former notamment ses bases à Kidal, à Tombouctou et à Tessalit. Cependant, les relations entre les deux pays se sont envenimées dernièrement.
Ce retrait de Barkhane ne pourrait pas assurer la présence de l'État Kidal dans ces conditions. C'est ce que pense Boubacar Salif Traoré, directeur du cabinet Afrique Blog Conseil et spécialiste des questions sécuritaires au Sahel. Selon lui, avec l'absence d'un mandat d'intervention pour l'AMINUSMA et l'armée malienne à cantonner, il sera difficile de s'attendre à une sécurité dans cette zone. Il est joint au téléphone par Arkia Touré.
Il va être très difficile de la part de l'armée malienne et de l'AMINUSMA de sécuriser cette zone. L'AMINUSMA a toujours dit que la lutte antiterroriste ne faisait pas partie de son mandat. L'AMINUSMA est là pour favoriser le dialogue politique, pour protéger la population, pour faire avancer justement certaines questions liées aux enjeux politiques. On sait que l'armée malienne a beaucoup de mal depuis un certain temps à aller de l'avant par rapport à la réforme qu'elle avait décidée. Aujourd'hui, ce retrait, je ne sais pas en tout cas quelle forme va prendre le processus, mais si tous les appareils de renseignement, si l'appui aérien n'est pas présent dans la zone, il est tout à fait certain qu'il sera pratiquement impossible d'assurer la présence de l'État sur cette zone-là.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une dizaine de jours après le lancement des opérations de révision des listes électorales, l'affluence n'est pas au rendez-vous dans une certaine commune de Bamako. C'est le cas en commune 6 et 3 du district de Bamako. Les présidents de la commission administrative pointent du doigt le manque de communication autour de cette activité. Ils dénoncent également la non-implication des autorités pour le bon déroulement du processus. Notre reporter Awa Berthe était sur le terrain.
Nous sommes dans l'ancienne cour du tribunal de la commune 6, où se déroule la révision de la liste électorale de la dite commune. Une soixantaine d'agents sont sur place. Depuis 8h jusqu'à 12h, personne n'était venu pour son transfert, explique Salia Sangaré, président de la commission administrative de la commune 6.
Le constat est amer. Malheureusement, il y a peu de gens qui viennent pour la révision. Il y a un problème de communication qui manque. On est buté à d'autres problèmes qui est l'organisation questions matérielles, le nombre de transferts que nous avons fait. Alors, il y a des quartiers comme Irimajo où nous sommes à peu près à 70. Il y a des quartiers même où on n'a pas fait un seul transfert.
C'est le même constat à la mairie de la commune 3 du district de Bamako. Souri Sidibé, président de la commission, regrette le manque d'affluence. Il impute cette situation aux partis politiques.
Il n'y a pas assez d'affluence. On a eu à faire un transfert du minimum d'une soixantaine de personnes et on a radié avec l'aide des registres de décès une centaine de personnes. Nous sommes à 5% du taux de réalisation.
Rappelons que le transfert prend fin le 31 octobre. Mais les radiations et les validations se poursuivent jusqu'au 31 décembre. Les présidents des commissions demandent aux autorités et aux partis politiques de communiquer davantage sur le processus.
Sur un tout autre sujet, la ministre de l'Éducation nationale du Mali a effectué mardi des visites inopinées dans plusieurs écoles. L'objectif était de s'inquiéter des travaux de réhabilitation de 2000 salles de classe. Madame Dédé Ousmane se réjouit du constat. Le point avec Ali Sissi.
Dans sa tournée à travers les deux rives de Bamako, la ministre de l'Éducation nationale a visité entre autres l'école fondamentale Inemasa Sissé où le coup d'envoi du projet a été donné. Elle s'est ensuite rendue à l'école fondamentale de Doumanzanassé, celle de Yirmadjo et de Torokorobougou. Selon elle, le travail est satisfaisant. Madame Dédéou Ousmane, ministre de l'Éducation nationale.
Les salles sont propres, elles ont été reprises des faux plafonds aux feuilles de tôle jusqu'au sol, jusqu'au tableau noir. Les portes et les fenêtres ont été reprises entièrement, sinon remplacée. Nous avons réellement apprécié les résultats que nous avons vus ce matin. J'imagine le bonheur que nos tout-petits vont vivre et éprouver lorsque le 1er novembre, ils seront admis dans ces salles de classe. On ne croyait pas un seul instant qu'on pouvait avoir de tels résultats.
La rentrée se fera-t-elle sans les enseignants? La question a été abordée par la ministre durant cette visite. Il n'y a pas de problème sans solution, a martelé Madame Dédéou Ousmane.
Le problème s'est posé, c'est vrai, mais dans le cadre des concertations, nous avons déjà commencé avec la société civile, avec les syndicats des enseignants. Nous allons continuer avec les autres acteurs, les conseils pédagogiques, les parents d'élèves. Nous mettant ensemble, nous pourrons trouver la solution.
Madame Dédéou Ousmane rassure l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour sortir l'école malienne de cette impasse. Notons que les travaux de réhabilitation des salles de classe ont coûté 5 milliards de francs CFA.
Je l'annonçais dans les titres, le lancement officiel de la plateforme Calamblon a eu lieu hier à Bamako. Selon les organisateurs, cette plateforme vise à former les journalistes, activistes, blogueurs et les étudiants dont le cours ont été fortement perturbés à cause de la COVID-19. Ce projet est financé par l'ambassade du Danemark à travers le fonds d'appui aux moteurs du changement FAMOC. Les détails avec Hamsi Toutouri.
La plateforme Calamblon est ouverte à toute personne désirant acquérir des compétences en journalisme selon les initiateurs. 6 modules dont le droit, l'éthique et la déontologie, le fact-checking, le journalisme et conflits y sont déjà dispensés. Salif Diara, coordinateur du projet Calamblon.
Calamblon est une plateforme de formation en ligne destinée aux étudiants en journalisme dont les cours ont été fortement perturbés par la COVID-19, aux activistes, aux blogueurs ainsi qu'aux influenceurs. L'objectif, c'est de pouvoir former déjà le maximum de gens qui souhaitent faire ce métier pour que, voilà, au moment de le faire, qu'ils le fassent bien.
Les participants de leur côté affirment avoir beaucoup appris grâce à la plateforme Calamblon. Aussi, ils espèrent sa pérennisation. Mariam Sanogo, participante.
Nous avons beaucoup appris comme l'écriture journalistique, le journalisme de solution, le fact-checking. Le fact-checking aussi est important parce qu'il faut dire, fausse information prime aujourd'hui sur bonne information de nos jours. Donc voilà, nous avons beaucoup appris vraiment.
L'assentiment a été sanctionné par la remise de diplômes à 80 auditeurs dont des journalistes, activistes, étudiants en journalisme qui ont suivi l'intégralité de la formation.
Parlons maintenant de la situation de la COVID-19 à la date du mercredi 13 octobre 2021. Les services de santé du Mali ont enregistré 25 nouveaux cas positifs, 11 patients guéris et un décès. La situation cumulée à ces jours est de 15 536 cas positifs, dont 14 403 guéris et 555 décès. Place à présent à la chronique ActiCovid présentée par Moussa Mali Sissoko.
Mesdames et messieurs, bienvenue. Tous les mercredis et jeudis, ActiCovid vous donne l'opportunité de poser vos questions aux spécialistes de la santé. Cette semaine, c'est Dr Hama Sidibé, chargé de la surveillance épidémiologique et point focal dans les districts sanitaires de Kaye, qui répond à vos questions. Suivons.
Docteur, partager le lit avec une personne atteinte de la COVID peut-il transmettre la maladie?
Oui, partager le lit, n'est-ce pas, avec une personne atteinte de COVID, on peut attraper la maladie parce qu'il y a la notion de contact. Quand vous partagez le lit, certainement vous avez un contact direct et il y a un risque d'avoir la maladie.
Est-ce que les moustiques peuvent transmettre la maladie à coronavirus?
Non, les moustiques, ça on est formel, les moustiques ne transmettent pas la maladie et aucune étude jusqu'à jour d'aujourd'hui n'a montré que les moustiques peuvent transmettre la maladie à coronavirus.
Discuter ou causer avec une personne atteinte de coronavirus sans contact peut-il être un facteur de transmission?
Si la distance réglementaire est respectée, il n'y a pas de problème. Et que les mesures barrières sont respectées, on peut s'asseoir et causer, échanger avec une personne atteinte de COVID. Et c'est comme ça, d'ailleurs, nous, en tant qu'agents de santé, c'est comme ça qu'on fait le soin, c'est comme ça qu'on fait certains interrogatoires, n'est-ce pas? Nous, nous sommes protégés, le malade aussi est protégé et il n'y a pas de risque d'être infecté si les mesures barrières sont respectées.
Docteur, au marché, l'échange entre les clients et les vendeurs peut être un facteur de contamination?
Oui, il y a un risque, c'est vraiment un facteur. C'est pour cela que vous voyez souvent quand COVID est venu, on a fermé certains marchés. Parce que plusieurs clients viennent, même supposons que le commerçant soit infecté, il touche à l'argent, il touche aux objets qu'il donne aux gens. Ou bien qu'un client est infecté, il vient infecter le commerçant, ainsi de suite. Parce que c'est vraiment un facteur de contamination, hein, les échanges entre clients et commerçants.
Ainsi se referme cette rubrique sur le coronavirus. Merci pour votre fidélité au programme de Studio Tamani.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Cap sur l'actualité dans les régions. Formation sur l'introduction de la deuxième dose du vaccin polio inactive dans le programme élargi des vaccinations de Routine du Mali. L'atelier a démarré mardi dernier à Kaï. Plus d'une trentaine de personnes prennent part à la session. Objectif, renforcer les compétences des formateurs nationaux et régionaux et du district sur l'introduction de la deuxième dose du vaccin antipoliomyélite. La formation de 2 jours est organisée par la Direction régionale de la santé et financée par l'UNICEF. La promotion de la pisciculture et de l'agriculture dans le cercle de Bafoulabé mobilise différents acteurs. Une délégation régionale de Kaï composée des responsables de l'agriculture et de l'élevage est depuis ce mardi à Bafoulabé. Elle a rencontré des jeunes pisciculteurs et agriculteurs. L'objectif est de s'inquiéter des difficultés auxquelles ils sont confrontés afin de leur apporter un soutien. Et c'est cette note qui boucle cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et de restez fidèles au programme des Studios Tamani. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, faites juste un tour sur notre site web à www.studiotamani.org où toutes nos informations sont disponibles ou appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Place dans un instant au journal Mbamanankan avec Idrissa Sako juste après le magazine et Mohamed Touré vous donne rendez-vous demain pour l'édition de la matinale en français. La réforme de l'enseignement de 1962 au Mali avait prôné un enseignement de masse et de qualité. De nos jours, cet enseignement reste à désirer. Quelle est actuellement la valeur des diplômes du Mali? La formation est-elle adaptée aux besoins du marché de l'emploi? Le système éducatif actuel est-il adapté aux réalités du pays? Quelle solution? Éléments de réponse dans ce reportage de Intala Akbilal.
Pour des pédagogues, de nombreuses difficultés contribuent à baisser la qualité des diplômes des écoles et universités maliennes. Selon eux, il y a 2 types de diplômes, les diplômes intermédiaires et les diplômes professionnels. Docteur Mourike Dembélé, enseignant-chercheur à l'université de Bamako.
La différence est que les diplômes intermédiaires, ça permet de continuer les études, comme le DEF, le baccalauréat. C'est-à-dire, si vous avez le DEF, vous ne savez rien faire, professionnellement parlant. Vous avez le baccalauréat malien n'est pas professionnel, vous ne savez rien faire.
Toutefois, cet enseignant-chercheur regrette que même les diplômes terminaux ne sont plus professionnels. Selon lui, ce sont les diplômes intermédiaires qui ont été transformés en diplômes professionnels.
Quand on prend la qualité de ces diplômes, on les mesure généralement à partir de la capacité que les titulaires ont pour poursuivre les études. Maintenant, cet aspect est aussi contrebalancé par les diplômes terminaux qui vous permettent d'aller sur le marché de l'emploi. En vérité, aujourd'hui, on ne comprend pas souvent la qualité même des diplômes. Si je prends par exemple une licence générale en droit, mais ce n'est pas professionnel. Nous avons transformé les diplômes intermédiaires en diplômes professionnels.
Pour relever la qualité des diplômes et résoudre la question de l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi, Dr Morike Dembélé recommande la prise en compte au niveau décisionnel de la dimension professionnelle dans les formations universitaires et dans les grandes écoles professionnelles.
Quand on dit un diplôme n'a pas de grande valeur, c'est par rapport à son rendement sur le marché de l'emploi. Alors que dans la formation, on peut interroger qu'est-ce qui appartient au professionnel, qu'est-ce qui appartient à l'académique. Il y a 80-90% de théorie et puis 10% de professionnels. Même pour les écoles professionnelles, ça ne permet pas aux sortants tout de suite d'être très opérationnels sur le plan professionnel.
Cet avis est aussi partagé par Kumba Yarissi, enseignante à la retraite. Selon elle, les autorités doivent tenir compte de la demande du marché dans les filières et branches étudiées.
C'est vrai que le système français et francophone est moins performant que les systèmes anglais et germanique, germanophone. Mais quand on parle d'inadéquation entre l'emploi et la formation, les choix politiques sont importants.
Pourtant, pour certains parents d'élèves, pour obtenir les diplômes de qualité, il faut améliorer le système éducatif malien en contrôlant la prolifération des écoles, le recrutement des enseignants, l'exécution des programmes et les effectifs pléthoriques dans les salles de classe et amphithéâtres d'université.